93.
La politique, c'est comme un iceberg. Ce qu'il y a sous l'eau est bien plus important qu'en surface. Avec Sylvain Lévesque, on découvre les facettes cachées de la politique.
Je sais pas si j'aime ça ou si ça me fait peur quand je reçois les sujets de Sylvain puis que j'ai aucune idée de quoi tu veux me parler. Sylvain, tu veux me parler d'une société d'hypocrites.
Ouais. Mais je trouve qu'on est une société d'hypocrites sur nos vices. Cette semaine, lorsque j'étais à Trois-Rivières, j'ai eu le plaisir d'accueillir le président de l'Union des municipalités du Québec, M. Cusson, qui est maire de Drummondville aussi.
Ouais.
Il y a une proposition qui a été faite à l'Assemblée nationale dans le cadre de tout ce qui va s'en vient avec le cannabis, tu sais, la création
ouais.
de la Société québécoise du cannabis. Et on veut interdire la vente, autrement dit, établir des SAQ du pot dans les quartiers défavorisés. Puis je trouve qu'on est une société d'hypocrites. On décide de s'attaquer à deux, trois choses. Premièrement, on veut enlever des mains du crime organisé le pot. Ce qui est correct, je pense.
Non, mais ce qui en fait ne changera rien, on l'a appris
c'est
hier.
Déjà fait.
Là. C'est déjà fait, c'est ça. Le crime organisé, c'est...
Il est déjà plus là.
Il gère déjà plus le pot. C'est des petites gens qui font pousser du pot à gauche, à droite, puis qui le revendent à leur chum. Les autres, ils sont déjà sa cocaïne puis ses pilules. Déjà, cet objectif-là, pour moi, il est raté. Là. C'est un faux objectif. Là.
Peut-être qu'il existe encore un peu, mais très peu. Tu as probablement très raison. Mais on décide via ça. Puis on dit aussi que on veut évidemment ramasser des taxes parce que là, si on le vend pas de façon étatisée, on n'a pas les taxes qui vont avec.
Ouais.
Par contre, on sait que parmi les gens défavorisés, autant que parmi les gens fortunés, il y a des consommateurs. Là, on va essayer de jouer aux hypocrites puis dire « Hey, mettez pas de SAQ du pot dans les quartiers pauvres. »
Parce que ça pourrait être mauvais pour eux autres.
Parce que hein, ça amène le visage que « Oui, c'est mauvais pour eux autres. » On veut les prévenir.
Ben, oui.
On veut donc les aider,
alors,
ces pauvres
rien.
Imbéciles incapables de prendre des décisions pour eux-mêmes.
On vient de parler du Ford Loco, là, puis c'est en vente dans des dépanneurs partout. Là. Ça fait pas de différence. La bière, les kin-can, puis tout ce qui est accessible,
c'est
pas
les
trop
bières,
cher.
Les grosses quilles à 10%.
Ben oui.
Même affaire avec les... On en parlait hier à Vice Versa, les appareils de loterie vidéo, tu sais, le
ouais.
jeu. On dit toujours, ah là, c'est mauvais, puis il faut pas mettre ça dans un quartier défavorisé. Mmh. Pauvre monde
ouais.
défavorisé qui sont pas capables de prendre des décisions pour eux-mêmes. Je comprends qu'effectivement, il y a beaucoup de drames humains qui se vivent avec les appareils de loterie vidéo. C'est vrai. Je ne le nie pas. En passant, il y a 2% de tous les joueurs, sur le 100% de joueurs qui jouent aux machines, qui jouent au casino, qui consomment des jeux, là, il y en a 2% qui développent des problèmes de jeu compulsif.
Mais l'hypocrisie, okay? Elle vient du fait que c'est l'État qui le gère. Tu sais, je veux dire, si l'État était si affecté que ça par les drames humains causés par les machines de loterie vidéo, ils enlèveraient des bars, puis ils enlèveraient des tavernes.
Je le sais,
mais l'État, comme il veut pas se priver des revenus que ça apporte, parce que ça apporte des revenus substantiels, on va prendre des mesures, on va mettre un maximum de... Franchement.
C'est pas ce qu'on fait. On continue à faire de la promotion, de la publicité. On va continuer d'en parler.
Ben ouais.
D'ailleurs, je te parle du jeu compulsif. Où est situé le salon du jeu de Québec? Je vais te poser la question.
Pas,
est-ce que c'est au sommet du Concorde, en Haute-Ville, très dur d'accès? Est-ce que
non.
c'est au Château Frontenac?
On va dire non.
Est-ce que c'est, je sais pas moi, à Sainte-Foy, dans des quartiers plus favorisés?
À Sillery, par exemple?
Et non. Il est à Place Fleur-de-Lys. À Vanier.
Ben oui.
Si tu prends le cercle de la pauvreté à Québec, là, prends-toi un compas, tu sais, comme dans le bon vieux temps, des compas en mathématiques où
tu fais des cercles.
Mets ta petite pointe qui pique là, sur le centre Vidéotron,
ouais.
fais un rond, là, puis là, tu vas ramasser Vanier, Saint-Sauveur, Saint-Rodrigue,
ben
Limoilou,
oui.
Saint-Pascal, la paroisse, le secteur de Giffard.
Ah oui, je sais très bien, c'est là que je reste.
Ben, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui est en situation de pauvreté dans ces quartiers-là, mais il y en a plus qu'ailleurs.
Ben oui.
Donc, on a placé le fameux centre de jeu à cet endroit-là pour attirer les revenus. On sait qu'il y a plus de joueurs. Parce que les personnes qui ont des sous ont aussi un moyen de transport. Ils peuvent s'y rendre au salon de jeu.
Ouais.
S'ils décident d'y aller, ils peuvent. Les personnes un peu plus défavorisées, souvent sont en autobus, souvent vont avoir plus de difficultés à se déplacer.
Oui,
donc,
absolument.
À place de rejoindre un 30, 40, 50% de joueurs potentiels, t'as presque la masse complète de joueurs qui est là. Alors, on est une société un peu hypocrite.
Ouais.
On veut les revenus, on veut les taxes, on voudrait pas les inconvénients et les malaises. Essayons donc de nous assumer. Puis même parmi les gens défavorisés, le jeu compulsif n'est pas un problème de la majorité. Il y a certains individus qui sont défavorisés, qui vont développer un problème de jeu, c'est clair, mais on met des programmes en place pour les aider, au moins arrêtons de faire de la promotion de ouais. ça. C'est déjà, ce serait déjà brillant. Tu sais, l'Auto-Québec, pourquoi ils font de la promotion sur leur
Regarde, le gratteux des fêtes. Moi, j'en ai un gratteux des fêtes, là, le calendrier ouais. de la vente gratteux, là. C'est une méchante belle promotion, mais écoute, en réalité, là, c'est rien, là. C'est un gratteux pour être un gratteux.
C'est ça.
Mais on est vraiment préoccupé par les problèmes de jeu. Mais le temps des fêtes arrive, vous allez voir, on vous offre notre package deal, notre panier de Noël de gratteux, tu sais.
Puis moi, j'ai mon mos des fêtes, Paul Raphaël. Ça fait au moins 10 ans que je jette mon billet Célébration. J'adore cette loterie-là. Je la trouve le fun. Il y a des cadeaux intéressants. Il y a un cadeau à la fin. Ça me fait suivre un peu pendant le mois. Tu sais, une possibilité de gagner. J'ai du plaisir à jouer à ça. Ça me coûte 25$. Je suis quelqu'un immunisé contre les problèmes de jeu pour une chose. J'haïs plus perdre que j'aime gagner. Autrement dit, là, moi, je suis un joueur de poker. J'adore jouer aux cartes. J'y vais une fois par année habituellement à Las Vegas jouer au poker. Mais quand je perds un 100$, là, j'ai en maudit puis j'arrête de jouer. Tu comprends?
C'est ça, oui, je
viens colérique. Fait que j'aime mieux. Puis quand je gagne, j'ai du plaisir, mais j'ai moins de fun que la colère que ça me procure quand je perds. Fait que je me donne un budget quotidien, 50$. J'ai joué pendant 2 heures. Pour 50$, je trouve que j'ai eu du fun. Tu comprends?
C'est ça.
Oui, vas-y.
En fait, Sylvain, c'est que je disais au début de ta chronique que j'adore ça quand je sais pas de quoi tu vas me parler. Mais là, tu m'as dit le salaire des députés est un des plus grands tabous. Ça, je le sais, mais qu'est-ce que tu vas me dire par rapport à ça? J'ai comme une petite crainte.
Ben, les députés, moi, c'est cette semaine, ça m'a fait bien rire. Ils ont essayé, comme en termes de football, là, Willy connaît ça, le football, lui. Ouais. Ils ont essayé la faux filade du corps, tu sais. Ils ont essayé de nous passer une petite vite l'augmentation du salaire des députés. Je veux juste montrer aux gens c'est quoi l'état de situation puis pourquoi ils ont essayé de faire ça. Actuellement, un député à l'Assemblée nationale, salaire de base, 94 000 $.
Ouais.
Tu vas ajouter à ça un 17 000 de non-imposable. Quand on parle du salaire des députés, là, lui, on n'en parle jamais, mais il y a un 17 000 $ qui leur est donné, qui n'est pas imposé par le gouvernement du Québec ni le gouvernement du Canada. Attention, le gouvernement du Canada vient de changer sa loi et ils viennent de dire que le non-imposable des députés québécois va devenir imposé. Et là, ça a mis en mausus les députés. Ils disent, « Hey, je viens de subir une baisse de salaire. On va prendre une partie de mon non-imposable et on va me l'imposer dorénavant au fédéral. »
Bon, 90 000 $.
94.
94 plus 17 000.
Plus 17 000.
Mais là, ça doit être en compte de dépense.
C'est un compte de dépense. En fait, c'est pas un compte de dépense vraiment. C'est que tu le reçois automatiquement sur ta paie. C'est un montant que tu reçois qui te permet de payer, disons, tes frais parce qu'il faut que vous sachiez que les députés n'ont pas le droit de présenter aucun compte de dépenses.
Non, c'est ça.
OK? Donc, quand vous allez là au souper spaghetti, quand vous allez aux soirées d'ensemble, quand vous allez à n'importe quelle activité...
Et vous vous déplacez pour y aller aussi?
Ah, ça, c'est autre chose. Attends, je vais te revenir avec ça.
Okay.
Donc, quand tu vas à des activités... Vous comprenez très bien que tout le monde demande de l'argent aux députés.
Ouais.
Hey, monsieur Lévesque, vous allez nous prendre un billet de tirage pour la popote, whatever. Ben vous allez nous prendre un billet pour notre souper spaghetti. Fait que t'as beaucoup à payer et tu ne peux pas le réclamer à l'Assemblée nationale. Ce 17 000-là, en principe, il est là pour ça.
Il sert à ça.
Après ça, aux députés, vous ajoutez des frais de déplacement annuels parce qu'ils n'ont pas le droit de réclamer des frais de déplacement quand ils s'en vont dans leur comté. Je dis bien dans leur comté. Mettons que je me promène, moi, puis je suis député à Vanier, puis je décide d'aller à Neuchâtel. Ça me prend 10 km, j'ai pas le droit de le facturer. Mm-hmm. Par contre, je reçois annuellement, sur mon chèque de paye, je reçois au minimum 8 200 $ et au maximum, parce qu'il y en a qui ont des très, très grands comtés, ça va jusqu'à 20 500 $ de plus.
Okay.
Ajoutez à ça, aux conditions des députés, 4% de fonds de retraite qu'ils reçoivent annuellement. Autrement dit, là, si tu fais 4 ans de mandat, 4 ans, tu auras dans ta retraite à l'âge de 60 ans, 4% par année de service. 16% pour 4 ans. C'est intéressant.
Oui.
16% d'un salaire, je vous rappelle, en moyenne de 94 000.
Ouais, mais là, on est rendu à 131.
Oui.
Avec ce que tu m'as ajouté.
J'ai pas fini.
Vas-y.
Ajoutez à ça tous ceux et celles qui ont une prime de fonction.
Ah oui, ben
donc,
oui.
Si t'es leader, si t'es whip, si t'es ministre, si t'es... Moi, à l'époque, j'avais été nommé président de séance. Président de séance, là, lorsqu'un député qui est président d'une commission parlementaire ne peut pas présider, on me demandait, Sylvain, peux-tu présider cet après-midi la commission parlementaire, par exemple, sur le code de la sécurité routière? J'allais là, puis c'était moi le président de séance.
Et là, toi, t'as une prime annuelle pour ça ou une prime au nombre de fois que tu te présentes?
Annuelle. 15% de plus.
15%?
Que j'y aille une fois, 10 fois, 50 fois, j'ai droit parce que je suis nommé président de séance. Vous l'ajoutez à ça.
Hey, mais si t'arrives à l'heure, est-ce que t'as 105 $ de plus?
Non, ça marche pas de même. Même aux qui sont donc
pas juste. Arrête-tu, le fun.
Non, sérieusement, vous voyez que le député gagne un bon revenu, un bon salaire. Le débat se continue. Est-ce qu'on attire les meilleurs avec ce salaire-là? Moi, je prétends que oui. Il y aura toujours... La personne là, qui gagne 500 000 va quand même trouver que c'est insuffisant pour y aller.
Le pouvoir a une valeur.
Le pouvoir a une valeur. Tu le vois, un gars comme Philippe Couillard, Dr. Barrette.
Pelado. Oui, Pelado. Il n'est pas allé en politique pour faire de l'argent, certain.
Ben, rendu là, ces gens-là... Ben, surtout un Pierre-Carl Péladeau, ben, il n'avait pas lui, besoin là, d'argent.
Non, mais c'est l'exemple extrême parce qu'en plus, lui, tu voyais qu'il avait une espèce de soif du pouvoir. Tu voyais qu'elle n'est pas là pour être députée d'arrière-ban. Là.
Mais là, tout ce que tu dis, est-ce que ça inclut, par exemple, moi je suis une députée en Abitibi-Témiscamingue.
Oui.
Est-ce que ça inclut mon logement à Québec? Est-ce que ça inclut mes déplacements? Parce que là, ça commence à être loin. Là.
À tout ce que je viens de te dire, tu as droit en plus à 60 déplacements entre ton comté et Québec, l'Assemblée nationale, qui s'ajoute, là, tu feras pas d'argent. OK, tu comprends, tu feras pas une scène, mais on va te rembourser tes déplacements. Si tu le fais en voiture, je vais te payer à 45 sous du kilomètre.
Ça, fait
qu'imagine
bon.
Si tu décides de faire Abitibi, Québec, en voiture, à 45 sous du kilomètre.
C'est avantageux, mais tu pars une journée.
Oui, tu vas être fatigué, par exemple.
Une journée, mais c'est payant, parce qu'à 45 cents de kilomètre, c'est très bien payé.
Et vous avez droit, par année, à l'équivalent d'environ 15 000 $ pour vous loger à Québec.
Okay.
Certains députés, pas tous, prennent la décision de s'acheter un condo. Autrement dit, si vous louez
tu
un condo, l'Assemblée nationale va payer la location de ton condo ou ton appartement. Si tu décides d'acheter le condo, donc tu assumes un certain nombre de frais, mais à la fin de ta carrière, il t'appartenait ce condo-là.
Ben oui,
ouais, c'est ça.
Donc tu peux décider de le revendre.
Ben oui, exact.
Il y en a qui ont pris cette décision-là et il y a peut-être 20 ans, il avait acheté des condos quand il n'était pas très cher en Haute-Ville de Québec et aujourd'hui, ces condos-là peuvent valoir 300, 400, 500 000.
À cette heure près de quartier.
Financés à même les fonds publics.
À partir de combien de kilomètres, si je reviens avec mon exemple en Abitibi, là, est-ce que c'est bien vu de prendre l'avion? Est-ce que c'est correct?
C'est absolument ton choix. Il n'y a pas de bien vu, mal vu.
C'est plus cher.
Ben oui, c'est bien plus cher, mais il n'y a pas de limite. Sinon, on va rembourser ton billet d'avion. Fait que vous comprenez que le salaire des députés, hein, ils font pas si pitié que ça.
Le gagnant est le perdant de la semaine.
Et le gagnant est...
Eh bien, Paul, moi, mon gagnant cette semaine, je le donne au ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. Je trouve qu'il a été très bon dans la crise du service de police de la Ville de Montréal. Il a agi promptement lorsqu'il a vu le rapport de Michel Bouchard, l'avocat. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, gestion interne au SPVM. Il a pris aussi, je pense, la bonne décision en nommant Martin Prudhomme. La SQ va pas mal présentement, ils sont pas en crise. Il a nommé rapidement Martin Prudhomme pour remettre de l'ordre chez les Bleus. Il y aura un vert qui va s'occuper des Bleus. Ça va être assez particulier, mais c'est un gars qui est solide. Puis il a aussi pris une deuxième bonne décision. Il a demandé un rapport d'ici le 19 janvier sur l'UPAC. Et l'UPAC aussi a des problèmes. Maintenant, faudra trouver des solutions à long terme pour les services de police. Et je te fais la recommandation suivante. Que les policiers, les chefs de police soient nommés aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Qu'on leur donne un mandat unique. 10 ans. Autrement dit, ils peuvent pas être renouvelés. Si tu peux pas être renouvelé, tu dois rien à personne,
rien à
tu comprends?
C'est ça.
Puis à la fin, Colin, si on fait ça de cette manière, je pense qu'on va enrayer bien des problèmes.
Disons qu'on lui donne le gagnant de la semaine, mais c'est conditionnel au résultat.
Mais il y a déjà un bon résultat parce que Martin Prudhomme a été nommé la tête du SPVM pour un an.
Le perdant.
Et le perdant, c'est...
Eh bien, c'est la ministre de l'Héritage culturel, excusez-moi, du patrimoine, Mélanie Julie. Oui, Jolie.
Hein?
Mélanie Jolie, là.
Appelle-la pas Julie.
Ah, tu dis Julie? Mélanie Julie. Non, Mélanie Jolie. Mélanie Jolie, sérieusement, là.
Ouais, okay.
J'entends ce que tu me dis.
Ouais. J'entends ce que tu me dis.
Oui,
j'entends ce que le peuple me dit.
Elle entend, mais elle n'écoute pas. C'est ça le problème. Puis, j'ai l'impression que Mélanie Jolie, au dossier de Netflix, au dossier d'Amazon, l'iniquité qu'on exprime, puis il y a eu une centaine de personnes du monde culturel, du monde des affaires, du monde syndical. Écoute, tout le monde est contre eux autres, ça va pas bien. Et on dirait que peu importe la question qu'on pose à Mélanie Jolie, elle va répondre la même chose. Moi, c'est une politique culturelle et non une politique fiscale que j'ai déposée. déposer. Oui, mais Madame la ministre, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Moi, j'ai déposé une politique culturelle et non une politique fiscale à cette question. Oui, mais est-ce que le Canadien va l'emporter demain soir? Moi, j'ai déposé une politique culturelle et non fiscale. C'est une cassette ambulante. Écoutez, là, c'est un peu comme dans Simpson quand l'oiseau pesait sur le bouton de la centrale nucléaire, là, à la place d'Homer Simpson. Madame Jolie, là, mettez un tape à cassette, partez la cassette, puis laissez-la aller, puis je vous dis, on va sauver 150-200 000 piastres par année. Ça n'a pas de bon sens, là. Sérieusement, Mélanie Jolie, j'ai lu dans le Huffington Post que c'est peut-être la pire ministre de l'histoire du gouvernement canadien. Je commence à le croire.
Comment ça passe à ça?
Et écoute, je voulais lui laisser une chance, parce que elle m'avait impressionné dans sa campagne contre Denis Coderre il y a quelques années, mais visiblement, ça va pas bien.
Mais là, elle vient de pelleter ça dans la cour de Bill Morneau, fait qu'on sera c'est pas ça. Plus avancé.
Bill Morneau, il en avait déjà épais dans sa cour.
Oui, c'est ça.
Ah, de toute beauté. Merci beaucoup, Sylvain Lévesque. On t'écoute à partir de 11h avec Judith Lucier pour l'émission Vice et Versa sur le réseau Cogeco. Il est 9h02.
Que Québec se lève.
Que Québec